L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après le programme alimentaire mondial la semaine dernière, retour cette semaine sur le continent européen. Alors, je ne vous parlerai pas du Brexit. Cette mascarade n'a que trop duré et prend un tour pathétique un peu plus chaque semaine. Il est temps de mettre un terme à cette comédie, même si cela ouvre une longue période d'incertitude. Je vais tout de même vous parler d'un caillou dans la chaussure de Boris Johnson, et je ne vous parle pas de la nouvelle marque de sa teinture pour les cheveux. Le sujet du jour est un vieux serpent de mer qui agite nos amis Grands-Bretons. Et oui, il arrive que la perfide Albion ait des angoisses métaphysiques. Il sera question d'un contentieux territorial et d'une vieille revendication identitaire. À ma droite, les éléments perturbateurs, qui portent des kilts, jouent de la cornemuse et s'amusent à pratiquer le lancer de poutre pour se détendre le week-end. Par-dessus le marché, ils vénèrent un grand dragon qui a pris ses quartiers dans le Loch Ness depuis des décennies. De l'autre côté du ring, vous trouvez les lords anglais qui, à Westminster, commencent à s'arracher les perruques. En raison du contexte actuel, à la fois avec le Brexit et la crise Covid-19, les velléités indépendantistes de ces trublions semblent reprendre du poil de la bête. Une fois n'est pas coutume, le titre de cette chronique m'est inspiré par un groupe de métal. Blood of Bannockburn, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Les racines de l'indépendance écossaise. L'Écosse est l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni. L'indépendance de l'Écosse remonte au 24 juin 1314, lors de la bataille de Bannockburn, à l'occasion de laquelle le roi Bruce remporte la victoire sur les Anglais. Le premier parlement écossais se réunit en 1326. Pendant plusieurs siècles, l'Écosse va réussir d'une certaine façon à vivre sa vie en étant indépendante. La parenthèse de l'indépendance se referme le 1er mai 1707 avec l'acte d'union qui est considéré aujourd'hui comme le véritable socle du Royaume-Uni. À cette occasion, l'Écosse devient un membre à part entière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Les années passent et les Écossais restent des sujets de Sa Majesté. Néanmoins, les revendications indépendantistes ne s'éteignent pas pour autant. En 1934, le Scottish National Party est fondé. Il milite, comme son nom l'indique, en faveur de l'indépendance écossaise. L'une des motivations qui a poussé à la création de ce parti vient du fait que les nationalistes écossais sont déçus de ne pas peser davantage au Parlement. Ils ont conscience qu'ils ont besoin de se structurer en un parti pour peser davantage dans les négociations. Le 11 septembre 1998, un Parlement régional semi-autonome est créé. À ce moment-là, l'Écosse obtient un élargissement de ses compétences en matière d'éducation, de santé, de justice et d'environnement. En revanche, les questions liées à la défense, à la diplomatie, aux relations internationales restent dans le giron de Londres. Comme on dit, il y a un temps pour tout, laissez les enfants jouer, les grands s'occupent du reste. Cet élargissement de compétences ne va pas pour autant éteindre les velléités indépendantistes. Lors des élections législatives de 2007, le SNP, le Scottish National Party, forme le premier gouvernement indépendantiste de l'histoire de l'Écosse, et par la même occasion, relance l'idée d'une indépendance écossaise. Un premier référendum sur l'indépendance a lieu en 2014. À cette occasion, les Écossais vont malgré tout dire non à l'indépendance, 55,2% pour le non, 44,8% pour le oui. Alors, que signifie le résultat de ce référendum sur l'indépendance ? La victoire du non n'enterre pas ce rêve indépendantiste, mais cela prouve que ce projet est encore peut-être un peu prématuré. La tentation de la séparation. L'Erita Mitsuko disait « Les histoires d'amour finissent mal en général. » Et il est vrai que pour l'Écosse et l'Angleterre, on pourrait reprendre cette chanson puisqu'effectivement, l'horizon du divorce semble se rapprocher un peu plus chaque jour. Au moment du vote du Brexit, en 2016, les Écossais ont exprimé le souhait de rester arrimés au continent européen. Alors, comment justifier une telle volonté d'indépendance au moment où la Grande-Bretagne se détache de l'Europe ? Pour les Écossais, il y a une justification économique. L'Écosse comprend d'importantes ressources naturelles, notamment du pétrole, dans la région d'Aberdeen. Une telle richesse leur fait penser qu'ils pourraient être parfaitement autonomes financièrement en cas d'indépendance. Les recettes qui sont apportées par l'exploitation d'hydrocarbures, comme les impôts sur les sociétés ou encore les redevances payées par les détenteurs de licences d'exploration, pourraient permettre de constituer un budget à part entière. Au début des années 2010, on estime que les recettes fiscales pourraient représenter jusqu'à 20% du budget d'un État indépendant. L'un des projets qui est envisagé pour gérer cette manne liée aux ressources naturelles serait de mettre en place un fonds souverain, comme ce qui peut être fait dans les pays du Golfe, en Russie ou encore en Norvège. Ces fonds qui permettent de gérer la rente et de la réinjecter dans l'économie réelle afin de préparer l'avenir du pays, de développer les infrastructures et de préparer la période de l'après-pétrole. Parallèlement, les Écossais envisageraient de développer les énergies renouvelables en raison notamment de l'importance de la façade maritime qui permet d'envisager de développer l'éolien offshore ou encore l'énergie marémotrice. L'un des sujets de fond qui accompagne cette recherche et cette envie d'indépendance repose sur la définition d'un modèle économique et social. Et il semblerait que les porteurs de l'indépendance souhaitent s'inspirer des modèles scandinaves. Pour le SNP, l'indépendance est un des vecteurs de l'insertion dans la mondialisation. Le vent de l'indépendance. Comme je le disais au début de la chronique, le contexte actuel, Brexit, Covid-19, semble aujourd'hui redonner des couleurs à l'indépendance et aux figures de proue de l'indépendance. L'une des principales figures de proue justement de l'indépendance aujourd'hui est Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise. Alors, en quelques mots, qui est Nicola Sturgeon ? Elle est chef du Parti national écossais depuis novembre 2014, et première ministre d'Écosse depuis le 20 novembre de la même année. C'est la première femme à occuper ce poste. Elle milite depuis son arrivée à la tête du gouvernement écossais pour obtenir davantage de compétences en faveur de l'Écosse, mais aussi pour rester dans le giron de la famille européenne. Et c'est ainsi qu'elle défend l'idée d'un nouveau référendum qui pourrait se dérouler dans les années à venir. Lors des élections législatives de 2019, le SNP a remporté ces élections et, de manière légitime, a porté à nouveau la revendication de la tenue d'un nouveau référendum. Cette idée a été rejetée par Boris Johnson. Aujourd'hui, Nicola Sturgeon estime que la crise de la Covid-19 peut renforcer le mouvement indépendantiste car elle n'est pas la dernière à critiquer vertement la gestion de la crise sanitaire par Londres. Elle estime que l'Écosse peut avoir un système indépendant qui pourrait se montrer davantage efficace dans ce type de situation. Elle a d'ailleurs récemment déclaré, au sujet de l'avenir des citoyens écossais, je cite, « L'Écosse est désormais une nation sur le point d'entrer dans l'histoire. L'indépendance est clairement en vue, avec un objectif commun, de l'humilité et beaucoup de travail, je n'ai jamais été aussi certaine que nous la réaliserons. Le peuple écossais a le droit de choisir son avenir. » La question qui se pose à tous pour les élections de mai est la suivante. Qui devrait prendre les décisions qui façonnent notre avenir ? Ainsi s'achève cette chronique dédiée à la question de l'indépendance écossaise. Comme vous avez pu le voir, cette question de l'indépendance n'est pas récente puisqu'elle remonte aux cendres de la bataille de Bannockburn. Le contexte politique, économique, social et sanitaire, aujourd'hui, ne fait que renforcer ce désir d'indépendance. Même si en 2014, les Écossais n'étaient visiblement pas prêts à franchir le pas, il sera intéressant d'observer dans les mois et dans les années à venir comment les Écossais choisiront de dessiner leur avenir. Souhaiteront-ils rester dans le giron de Londres ou bien oseront-ils franchir le pas de l'indépendance malgré toutes les incertitudes que cela peut comporter ? Malgré toutes ces incertitudes, je vous rassure, ce n'est quand même pas demain la veille que Nessie va se mettre à chanter God Save the Queen. Un petit conseil pour tous ceux qui partiraient en Écosse dans les mois et dans les années à venir, ne dites jamais à un Écossais que c'est un Anglais. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.